Merci. Bonjour. Bon, au fait, génial tout ce qui est sorti déjà. En fait, moi, je me rends compte qu'en vous écoutant tous et puis en pensant à ma présentation, je me suis dit, mais il y a plein de choses qui font écho. Et puis, du coup, ça me pose un sacré problème pour rester dans les temps. Mais je vais quand même essayer. Et en gros, je vais faire aussi une petite contextualisation pour que les personnes. Si par hasard il y a des personnes qui ne sont pas Fribourg, en fait, dans la salle. Et puis après, vous racontez une histoire d'un projet. Puis après, on pourra en parler un petit peu plus. Là, je vais mettre par là. Je vais déconcer ma chaise.
Ça marche bien, les deux parleurs, mais on va écouter pour
l'autre. Prêt?
Ouais, parfait.
Ah, bah oui, on est content aussi maintenant. Super. Fribourg, vous avez en gros une carte de la ville avec un peu du grand Fribourg là autour. Donc, juste pour contextualiser la chose. Il y a 15 ans en arrière, la ville de Fribourg a adopté un plan directeur. Ce plan directeur, en gros, il avait un seul contenu. Le contenu, c'était doubler la population du Grand Fribourg. Donc, en gros, de passer d'une population de 50 000 habitants à une population de 100 000 habitants. Actuellement, 15 ans plus tard, on est en train de finaliser en ville de Fribourg le plan d'aménagement local, qui est une émanation du plan directeur, qui décide quelque part qu'est-ce qui est faisable où à Fribourg, qu'est-ce qu'on peut construire, quelles sont les activités possibles dans les lieux, etc. La volonté, enfin, l'idée que les politiciens avaient il y a 15 ans en arrière, c'était une idée extrêmement généreuse, c'était de vous éviter l'identification. Ils étaient partis du principe que tous les gens de la Riviera où les loyers sont très élevés, allaient affluer à Fribourg. Même chose depuis Berne. Concrètement, ça ne s'est pas passé. Et ça ne se passera pas. Entre autres parce que, comme vous l'avez vu, la VEVS s'est densifiée, la Broye s'est densifiée, la Saint-Gilles s'est densifiée. Et actuellement, on est dans le paradoxe que, au fait, le plan d'aménagement local prévoit toujours une densification, mais la population diminue. On est passé de 42 000 habitants à 39 000, en gros, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que, en ville de Fribourg, du coup, il y a plein de projets de construction qui vont se réaliser, mais qui ne vont pas être habités. En gros, sur la ville de Fribourg, il y a des chantiers actuellement qui sont prévus pour 20 000 nouveaux habitants sur une population de 39 000. Ils ne vont pas être habités. C'est un problème, ouais. Ça fait baisser les loyers, c'est super. Voilà. Donc venez à Fribourg. Voilà. Et une autre chose qui se passe, c'est que les politiciens qui étaient en place il y a 15 ans ne sont pour la plupart plus là. Et conscients du problème. Et conscients d'un autre problème. C'est qu'une densification, elle ne peut s'accompagner, elle ne peut se faire qu'avec des mesures d'accompagnement. À l'époque, on pensait juste construire des immeubles, des blocs, etc., plus tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire des écoles, et puis de réfléchir un petit peu quand même sur les moyens de déplacement, les places de parc, enfin des choses comme ça, quoi. Rien de plus. Actuellement, on a des politiciens qui se rendent compte que si on veut densifier, parce qu'il y aura quand même une certaine densification, hein, je veux dire, il y a quand même des gens qui vont venir habiter, c'est une chouette île hein, en plus de ça. Ben, il faut accompagner ça. Et ça nous donne une fenêtre d'opportunité avec l'animation socioculturelle. Alors toutes ces dernières années, on a bossé, on a milité, on s'est dit il faut absolument que ça soit pris en compte, on a fait des exercices de quartier, on a fait des processus participatifs avec des habitants, de consultations et des choses comme ça sur beaucoup de choses. Mais on n'arrivait jamais à aller plus loin. C'est-à-dire que faire reconnaître que l'animation socioculturelle peut être, en plus de ça, un garant de la co-construction et un accompagnateur sur le long terme de ce qui est en train de se passer, des espaces d'expérimentation qu'on met en place et tout ça, il y avait peu d'écoute. Maintenant, on est dans une fenêtre d'opportunité qui est assez géniale pour ça. Pas toujours simple, hein, je veux dire, mais qui est assez géniale parce qu'on a d'une part des politiques qui sont ouverts à ça, d'autre part on a des compétences, on a acquis une chier de nouvelles compétences au fait ces dernières années dans l'animation socioculturelle, notamment d'urbanisme, etc. Et, alors là je reviens un peu sur la discussion d'avant, on a la chance, alors c'est contextuel là aussi, on a la chance d'être une association, donc on peut proposer à la ville des finances pour faire ce qu'on fait. On est en capacité de trouver des sources financières qui ne sont pas des sources financières communales, qui nous permettent de mettre en avant le fait qu'on peut être un vrai partenaire dans ces questions-là. Actuellement, on a deux projets dans lesquels on est beaucoup plus engagé, et pas mal de projets, je ne vais pas vous les montrer tous sur la carte, où on est en négociation avec la ville pour activer l'animation socioculturelle pour des processus d'accompagnement. En gros, un projet dont moi je ne vous parlerai pas, qui est un projet plutôt centre-ville, un tout petit peu excentré sur une place publique, où il y a tout un travail assez génial qui a été fait en termes d'identification des besoins des habitants, en termes de conceptualisation des structures qui vont être mises dessus, et une proposition d'accompagnement de ces structures-là aussi. C'est le parc du domino, dans les groupes ou comme ça, ou si vous êtes intéressé, il y a Charlie qui a été hyper impliqué là-dedans. Donc allez vers elle si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Moi, je vais vous parler d'un quartier qui s'appelle le quartier du Schoenberg. Je vous parle plutôt de ce quartier-là parce que même si je suis responsable des centres d'animation de la ville de Fribourg, je suis aussi animateur en centre et c'est dans le quartier du Schoenberg, donc je le connais de façon beaucoup plus intime, le projet. Voilà, le quartier du Schoenberg. Alors, le quartier du Schoenberg, 11 000 habitants. Bah, on l'a dit avant, hein, pour des conditions lausannoises où je me vois, c'est peut-être pas énorme. Il faut savoir que 11 000 habitants sous le canton de Fribourg, ça veut dire que si le quartier était une commune à part entière, ce serait la quatrième plus grande du canton. Projet sur le quartier, 5 000 habitants en plus, 15 000 habitants. Un quartier qui a été construit dans les années 50, enfin qui s'est développé dans les années 50 jusqu'à maintenant. Et en gros, vous n'avez aucune infrastructure à l'intérieur. Oui, il y a un petit poste de police. Une petite coque, une petite Migros, un ou deux bistrots, en termes d'entreprise, d'emploi. Ouais, il y a une entreprise de meubles, une entreprise électroménager, et c'est tout. Moi, je travaille depuis 25 ans dans ce quartier. Ça pose quelques problèmes très concrets, hein, je veux dire, par rapport aux accompagnements qu'on fait avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les âgés, les aînés du quartier aussi. C'est que un enfant qui grandit dans le quartier, ou certains enfants qui grandissent dans le quartier, disons-le plutôt comme ça, ils grandissent sans avoir aucune expérience tactile, visuelle, d'autre chose que de l'habitat, le terrain de foot. Il y a deux petits magasins, voilà. Quand ils commencent à grandir un peu plus, puis qu'ils vont en ville, ils commencent, ben, je ne sais pas si on le voit bien là-dessus, mais ouais, j'ai peut-être une autre slide. Non, cela n'est pas mieux. Au fait, l'accès à la ville se fait par un pont. Et ils ont, bah, du coup, ils développent une expérience du centre-ville, commerce, peu d'artisanat, beaucoup de commerce. Et quand ils arrivent à l'âge de 14-15 ans, c'est juste un exemple, pour en donner plus, hein, mais quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la ville, bah, ils vont forcément dire des choses qu'ils connaissent. Donc pas grand-chose. Donc c'est un des enjeux sur le quartier qui est clairement un enjeu lié à comment il a été urbanisé. Pour en venir à l'histoire par rapport à toute l'histoire que je vous racontais par rapport au projet, nous, notre objectif, c'est de changer l'urbanisme du quartier. Simple. Non, c'est vrai, c'est simple. Ça va prendre du temps, mais c'est simple. Parce que les idées sont simples, en soi. Donc, deux objectifs sur le quartier, c'est d'une part de récupérer les rez-de-chaussée. Dans un quartier comme celui-là, quartier de Tours essentiellement, les rez-de-chaussée sont dévalorisés. Parce que personne ne va habiter dans un rez-de-chaussée à moins d'avoir un jardin privatif autour. Donc les rez-de-chaussée, gentiment, il y a quelques rez-de-chaussée qui étaient prévus comme locaux communs, ils se dégradent. Et puis ben, ça devient des dépôts. Donc récupérer des rez-de-chaussée pour pouvoir en faire des lieux d'activité. Artisanal, culturel, social, etc. Un problème, ou deux problèmes. Le premier problème, c'est que le PAL ne prévoit pas ça. Un PAL droit sur un quartier comme le Schoenberg, de faire, par exemple, des lieux de production artisanale. Pas de problème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des lieux sociaux et des lieux culturels. Donc, mise en place, ça c'est quelque chose qu'on va devoir faire, d'une régie sociale ou culturelle qui peut gérer et puis activer des espaces de ce type-là. Deuxième objectif sur le quartier, travailler sur les espaces interstitiels. Il y a plein d'espaces dans le quartier. Enfin, il y en aura de moins en moins une fois qu'il y aura de la densité, de la densification, mais tous ces espaces-là sont en gros des gazons assez stériles. En plus de ça, il y a plein de cheminements informels dans le quartier qui sont super intéressants et qu'on peut pousser plus loin. On parlait avant de petites interventions du genre des bancs publics qui sont des lieux de rencontre. Il n'y a pratiquement aucun banc public sur un quartier comme ça. Et la ville, pour l'instant, n'est pas prête à en mettre en place. L'association de quartier râle depuis longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en construire en autoconstruction avec les habitants et on va les installer. On va commencer ça ce printemps. Voilà. On verra bien comment ça réagit derrière. On a un super lien avec les politiques communales à part ça. Donc on peut le justifier derrière. Moi je pense que ce qui est important de retenir là, c'est que si on veut le changer, il faut commencer à faire. Pas forcément attendre qu'on soit légitimé pour le faire, ni qu'on ait les moyens pour le faire. Ce qui est un petit peu problématique parce que ben, du coup, à force de voir des nouvelles choses et de vouloir développer des nouvelles choses dans l'animation, ben forcément on éclate notre temps de travail, enfin des choses pendant un certain temps. Mais par contre, la légitimité, elle vient après. Puis on arrive à les récupérer de par derrière. Troisième chose, les places publiques. Il y a très peu de places publiques sur un quartier comme le Schoenberg. Ça fait 50 ans, en gros, qu'il n'y a pas eu d'investissement. Hein. Alors la ville, il y a 10 ans en arrière, a investi dans 5 lieux. Gros investissement, mais ça ne comble absolument pas le manque qu'il y a. Donc l'idée, c'est de réinvestir des places publiques et au fait de transformer des places privées, c'est vrai qu'il faut aussi le savoir, en ville de Fribourg, la ville de Fribourg est très peu propriétaire au fait, ni de bâtiments, ni de terrain. Donc, si on veut mettre quelque chose en place, il faut négocier avec du privé. C'est les privés qui sont, c'est des fonds de pension, c'est des fonds d'investissement qui sont propriétaires de 90% du territoire fribourgeois et des bâtiments fribourgeois. Ces fonds de pension, alors moi, j'étais assez étonné quand on a commencé à aborder deux, trois choses, parce que moi je pensais que le privé n'allait jamais entrer en matière. Puis au fait, ils sont assez prêts à entrer en matière. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'une fois qu'ils ont investi quelque chose, ils ont envie que ça devienne public. Donc que ce soit pris en charge par la commune. Et ça, c'est encore une fois une opportunité. C'est pas évident, mais c'est une opportunité parce que je ne sais pas si vous avez déjà négocié ou été pris dans des cotex ou des copiles pour des constructions ou des choses comme ça. Le monde du bâtiment et de la construction est un monde extrêmement dur. Les architectes sont mis en concurrence, les entreprises sont mis en concurrence. La ville, quand elle est en négociation pour des constructions, elle est dans un rapport extrêmement dur avec les propriétaires privés. On essaye d'obtenir des avantages, etc., etc. Très, très peu de culture de médiation entre deux. Ah, super, en animation, on sait faire ça. Quand on est pris dedans, on sait faire ça. C'est une opportunité. Concrètement, je voulais parler d'un truc, mais je ne vais pas parler de ça parce que ça sera trop long. Bref, très concrètement, actuellement, les différents projets qu'on a commencé à lancer, les sollicitations qu'on a eues de la part du privé, parce qu'il y a des privés qui veulent construire sur le quartier, qui sont venus nous demander est-ce que vous êtes prêts à bosser là-dessus et à nous proposer des solutions d'accompagnement. Et eux, ils étaient prêts en contrepartie à mettre à disposition des fonds. Il y a un des projets pour aller très très vite, projet de densification qui est noté là, où il y a deux nouveaux immeubles qui sont construits. Les propriétaires, après négociation, sont prêts à mettre à disposition 180 000 francs pour l'accompagnement sur 3 ans. Top. Mais la ville n'a pas l'habitude de ça. Et du coup, tout le monde actuellement est hyper content de tous ces projets-là, y compris la ville. L'architecte de ville, la dernière fois qu'on a posé avec lui, il nous a proposé, enfin il nous a demandé, que s'il pouvait mettre en place des PAD, des plans d'aménagement de détail, enfin voilà, les plans d'aménagement de détail, en fait, sont des plans qui sont contraignants pour le propriétaire en termes de construction, qui vont fixer des normes précises de ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Donc en gros, il nous a dit, si j'arrive à mettre en place des PAD pour toutes les grandes, les gros projets de construction sur Fribourg qui obligent le propriétaire à mettre en place des mesures d'accompagnement, est-ce que vous êtes prêt à les prendre? C'est potentiellement, enfin on est en gros 15 actuellement animateurs sur la ville de Fribourg, ça veut dire qu'il faut qu'on double l'animation socioculturelle très clairement par rapport à ça. Alors oui, évidemment, mais il faudra voir ce que ça donne par la suite, mais c'est extrêmement intéressant. Peut-être juste quelques enjeux. Ouais, voilà. Parce que tout le monde est très content, même le politique, quand on va présenter des choses. Le problème, c'est la réalisation concrète derrière. Parce que la réalisation concrète, elle va s'affronter à des réalités. Alors, on disait avant qu'il fallait qu'on explicite nos enjeux et nos réalités aux politiques. Le politique a des enjeux à nous expliquer aussi. Je pense que c'est vachement important de les écouter par rapport à ça. Voilà, plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est que le politique veut simplifier. En participation, parce que bon, bah, ça c'est comme partout, maintenant ils sont obligés de faire un peu du participatif chaque fois qu'il y a un projet qui est mis en place. En participation, ça c'est un message qu'on essaie de faire passer et qui n'est pas facile à faire passer, c'est que si quelqu'un, une entreprise quelconque, parce qu'il y a plein d'entreprises maintenant qui proposent du participatif, vient et dit « je vais vous simplifier l'histoire », prenez les pas, ça c'est une des premières choses qu'on essaie de faire passer au niveau du politique, parce que la participation, ça ne simplifie pas, ça complexifie, ça enrichit, etc., etc. Mais ça ne simplifie pas. Le problème, c'est aussi de pouvoir obtenir des budgets sur un long terme. Dans un urbanisme classique, on va décider un budget sur une année pour construire quelque chose qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, selon comment. Une fois qu'on l'a fait, c'est bon. On ne va plus investir, là. Le problème, nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est que si on veut faire de l'urbanisme participatif, il faut que les espaces soient des espaces co-construits, c'est une chose, des espaces expérimentiels sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va venir avec des interventions légères, qui ne sont pas faites pour durer, et qui doivent être réaménagées, changées tous les 5-10 ans, en gros. Le politique a de la peine, mais ce n'est pas une question de volonté, hein, c'est juste une question de budget, de fonctionnement, à pouvoir prévoir ça sur le long terme, même si ça coûte moins cher au final. C'est un deuxième enjeu, j'avais envie de dire. Un autre enjeu qu'on a, c'est que nous, à la ville de Fribourg, on est mandaté par la cohésion sociale, c'est un département. Évidemment, quand on commence à faire ce genre de choses-là, ben, il y a plein d'autres départements qui sont impliqués à l'intérieur, notamment les départements de l'édilité, de l'urbanisme, etc. Et il y a un enjeu sur qui paye quoi. Donc, de pouvoir créer au niveau communal un fonds pour ce genre de choses-là qui est transversal aux différents services Et là, encore une fois, en termes de fonctionnement, c'est pas quelque chose d'évident. Et puis, j'avais encore... Ah ouais, oui, c'est quand même important. Si on veut pouvoir faire ça, il faut qu'on monte en compétence en termes d'animateur. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis 15 ans, sur lequel je bosse depuis 15 ans. Mais j'ai eu la grande chance de pouvoir engager des animateurs et des animatrices ces derniers temps qui avaient des compétences spécifiques en urbanisation, en urbanisme, pardon, mais aussi en co-construction. Je suis un menuisier amateur, je me démerde, mais du moment qu'il faut faire de la co-construction, il faut être plus que simplement quelqu'un qui se démerde. Et du coup, la montée en compétences pour pouvoir dialoguer, être compris et pris au sérieux par les différents acteurs, elle est hyper importante. Voilà. Peut-être juste encore un chiffre. Parce que c'est un autre truc qui me tient très à cœur. Quand on veut faire de la co-construction et du participatif, on part toujours sur le principe du bénévolat. Nous, on essaye de plus en plus d'aller vers quelque chose où on peut défrayer les gens pour le faire, surtout si ça devient actif. Et au fait, c'est un truc super intéressant parce que ça nous permet de faire de la réinsertion sociale, mais aussi professionnelle avec les plus jeunes. Puis ça, c'est un truc qu'on veut passablement développer ces prochains temps. Voilà.
Merci beaucoup.